savez aussi bien que moi, il y a quelque chose qui se crée autour d'un repas. Je le dis parce que Noël approche à grands pas. Il y a quelque chose qui dépasse l'art de la table ou de la bonne bouffe. Quelque chose qui fait que même si on les redoute, on y est attaché. Quelque chose qui relève de l'établissement et du maintien de la famille, quelle qu'elle soit, même artificielle. Naturellement, les parents sont de la même chair et du même sang, mais l'alimentation commune produit ou reproduit quelque chose de l'ordre de l'origine. C'est intéressant. Ce qui se joue dans un repas, ce qui se fabrique à mesure que défilent les plats, c'est le sentiment d'appartenance à une famille, à une communauté, à une société. Et tant mieux ou tant pis, si on est sans cesse au bord de la crise ou de la rupture, on s'y attache à ces déjeuners ou à ces dîners, parce qu'ils sont précisément le socle de nos rapports humain. Dans ce livre si important qui s'appelle Les Années, Annie Ernaux structure son récit à partir des repas de fête, des repas de famille, des repas du dimanche. Ce sont des moments qui alimentent, dans tous les sens du terme, son histoire intime et collective. Et elle voit dans la lenteur de ces rassemblements à la même table un moment d'échange et de transmission qui catalyse tout ce qu'on est. C'était le roman de notre naissance, de notre petite enfance, qu'on écoutait dans une nostalgie indéfinissable. Voilà ce qu'elle écrit. À chaque repas de famille, on est en train de s'écrire. Pensez-y.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quoi se nourrit mon invité d'aujourd'hui? Elle est comédienne et depuis ses débuts navigue avec finesse entre cinéma grand public, je pense à des films comme La vérité si je mens ou OSS 117, et cinéma d'auteur chez Abdelatif Kechik, Jacques Audiard ou encore Stéphane Brisé. Mercredi, elle sera à l'affiche de Rose, le premier long métrage d'Aurélie Saada. Elle y joue la fille de Françoise Fabian, veuve approchant les 80 printemps et qui compte bien profiter de la vie et du temps qui lui reste. Bonjour, Auratika.
Bonjour, Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, qu'est-ce que ça nous raconte, un repas, pour vous?
Un repas, c'est surtout l'occasion de se voir, c'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion de se dire qu'on s'aime. C'est une déclaration d'amour de faire la cuisine. Donc oui, c'est un moyen de donner.
Vous pensez à quel repas? Des repas à vous, des repas de cinéma?
Alors d'abord, je pense au repas de famille. Moi, c'était l'occasion... Quand on allait chez ma grand-mère pour le Shabbat, alors on n'était pas du tout religieux, mais c'était plus l'occasion de se retrouver en fait, et c'était ou pendant les vacances scolaires, et c'était c'était la façon de se réunir. Enfin, c'était un prétexte en fait à être ensemble, c'est tout. Je me souviens des boulettes au petit pois que je n'ai jamais retrouvé le goût des boulettes au petit pois de ma grand-mère.
Mais... C'est ça. Pour faire famille, je vous pose aussi la question parce qu'il se trouve que le film d'Aurélie Saada déborde de scènes où les personnages sont à table, justement. Qu'est-ce qu'on partage, en fait, quand on est autour d'une table? Auratika, vous qui avez même une recette à votre nom, Marmiton, ça doit être un homonyme, c'est ce que je me suis dit.
Oui, j'ai fait une collab avec eux, j'ai fait pendant le confinement la recette du houmous, oui. Sans huile.
Alors, qu'est-ce qu'on partage quand on est autour d'une table? À vous entendre, j'ai l'impression que c'est l'amour, tout simplement.
Ben oui, c'est l'amour, c'est la joie d'être ensemble, c'est les rires, c'est les engueulades, c'est la communication.
Oui, c'est ça. C'est la circulation de la parole, c'est l'émergence de la parole.
Exactement,
aussi.
L'émergence de la parole, ouais.
Je pensais à une scène en particulier dans Rose, celle où vous emmenez votre mère à un dîner entre amis, parmi lesquels se trouve une certaine Marceline Loridon, et où le personnage endeuillé de Françoise Fabian se libère, se lâche. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette scène-là, Auratika?
Bah, c'est le déclic, c'est-à-dire que sans raconter tout le film, mais donc Françoise, Rose, ma mère a perdu son mari, notre père, et puis elle commence à se laisser aller, à dépérir un petit peu. Elle a perdu sa vie, en fait. Elle s'est construite avec cet homme. Et tout d'un coup, je l'emmène à ce dîner d'amis. Et puis, il y a Marceline Loridan qui est là, qui pétille, qui en a rien à foutre, qui demande de la vodka, qui demande à un copain de lui rouler un pétard, qui parle de sa vie, de baise, etc. Et puis, elle a un déclic. Elle dit, mais non, mais en fait, la vie ne s'est pas arrêtée.
Oui.
C'est pas l'âge qui fait que je dois me cantonner à être une grand-mère.
Et il se joue aussi quelque chose de l'ordre de la relation mère-fille. Auratika, avec quelle mère est-ce que vous avez grandi, vous?
J'en ai fait un livre. Avec quelle mère j'ai grandi? J'ai grandi avec une mère qui m'a aimée, qui m'a regardée, qui m'a fait confiance. Et je pense que c'est le plus important. Après, c'était quelqu'un qui, je pense, s'est cherché tout au long de sa vie et qui s'est pas trouvé, qui s'est perdu dans quelques paradis artificiels qui font que ça a été plus chaotique et qui a pas trouvé une stabilité, en tout cas, personnelle.
Dans quelle mesure vous est-il arrivé parfois d'avoir le sentiment de vous conduire envers votre mère, non pas comme une fille, mais comme une mère, justement? Parce que c'est un peu ça qui se passe au début du film Rose aussi.
Au début du film, quand, oui, Alors, moi, avec ma mère, disons qu'elle, elle me racontait toute sa vie et elle me, très vite, elle considérait que les enfants sont comme des adultes, elle me demandait conseil. Et moi, j'étais la raisonnable de nous deux. Je vivais seule avec ma mère. J'étais la raisonnable. Donc, en effet, c'est avec le recul que je me suis rendu compte, puis même en écrivant le livre, que je me suis rendu compte que j'étais presque la mère de ma mère. Mais c'était pas une intention. Enfin, c'est presque elle qui m'a mis aussi dans ce rôle-là.
Ça a été un modèle ou un contre-modèle ou les deux?
Je crois qu'on se construit dans la lignée ou contre de ses parents ou de ses références. Donc. Moi, je crois que j'avais besoin justement, oui, de quelque chose de plus cadré. J'aimais l'école, j'aimais ma maîtresse, j'aimais les choses, oui, plus cadrées, parce que c'était trop fantasque à la maison. Donc, ça me rassurait, quelque chose de plus cadré. Moi, je rêvais d'aller au Club Med et de manger des frites le dimanche. Et ma mère me disait, mais jamais de la vie, moi vivante, jamais. Pour autant, donc, on avait des curies d'agneau et puis je me faisais à manger toute seule. Et puis voilà, mais.
Pour autant, c'était un modèle de liberté quand même.
Ah ben c'était génial. C'est d'ailleurs ça qui est presque plus difficile après dans la vie, c'est de. J'étais habituée aux surprises en fait, donc il y a quelque chose où la routine et le quotidien et une vie de famille plus cadrée, plus classique, c'est quelque chose d'étranger pour moi. Et donc c'est vrai que parfois ça me pose des petits problèmes.
Vous savez, je vous parle de liberté, parce que j'ai l'impression qu'il s'agit que de ça, dans Rose, justement, la liberté d'une femme, vous le disiez, hein, face à certaines normes sociales qui voudraient qu'à partir d'un certain âge, la vie s'arrête. L'âge, pour vous, en tant que femme, mais aussi en tant que comédienne, qu'est-ce que ça représente, Horatica?
L'âge, c'est quelque chose de récent, je trouve, auquel je suis confrontée, ou on est confrontées les femmes. Il y a ce truc de voilà, on passe les 50 ans, il y a quelque chose de ah merde, ah oui, d'accord, je suis face au miroir, ah oui, bon, alors d'accord, qu'est-ce que j'en fais, comment je gère ça, comment je. Il faut accepter, de toute façon, on doit accepter l'âge, le regard des autres, le je sais pas, je pense qu'il faut accompagner les choses. On peut pas être contre, donc il faut accompagner les choses et l'accepter.
Mais faire exister sur un écran de cinéma des personnages comme celui de Rose, justement, faire exister des histoires comme la sienne, quel enjeu est-ce que c'est? C'est un enjeu de représentation, quand même.
Vous parlez du personnage de Rose?
Oui.
Oui, mais elle dépasse son âge. Rose dépasse son âge parce qu'elle décide de vivre comme elle l'entend et non pas suivant l'âge qu'elle a.
Mais de la part d'Aurélie Saad, à mettre en scène une femme d'un certain âge comme ça, d'un vieil âge même, c'est important.
Oui, je pense que c'est important, bien sûr. Mais c'est important pour nous toutes. C'est important pour nous toutes. Je trouve que ce film arrive au bon moment, c'est-à-dire que même après le Me Too, etc., il y a ce truc de maintenant, on peut parler aussi de cet âge qu'on n'accepte pas, qu'on a dépassé 50 ans, tout est plus difficile, le regard des autres, etc. Et là, ça parle de ça. C'est OK, maintenant, on va parler aussi de l'âge. On va parler de l'égalité homme-femme, bon, c'est pas réglé encore, mais on va parler aussi de l'âge.
Il y a une responsabilité quand on raconte une histoire, quand on écrit une histoire, vous qui écrivez aussi, Horatica.
J'écris un petit peu. Il y a une responsabilité vis-à-vis de soi-même, en tout cas déjà. Vis-à-vis de soi-même, après ça dépend où est-ce qu'on la place, mais oui, vis-à-vis de soi-même. Je ne sais pas s'il y a une responsabilité. Oui, je pense qu'il y a une responsabilité.
Et à quel moment est-ce qu'on décide de prendre cette responsabilité, de raconter ses propres histoires, de prendre en charge le récit?
Quand c'est obligé que ça sorte. Quand c'est là, il faut que ça sorte. Moi, quand j'ai écrit mon livre, ça a été deux choses. C'était un portrait dans Libé que j'avais fait. Et puis, il y a une éditrice qui est venue me voir, qui m'a proposé, qui avait été intriguée par deux, trois phrases que j'avais dites sur ma mère. Et qui m'a proposé d'écrire ce livre. Au début, j'ai dit, ah non, je veux pas me déballer, etc. Et puis, il y a eu ça. Et puis, elle a insisté. Et puis, il y a mon ex-belle-fille qui, à un moment, je parlais de quelque chose que j'avais fait à 18 ans, elle me dit « Ah oui, mais toi, de toute façon, ta mère était défaillante. » Et le terme m'a tellement violentée et agressée que je me suis dit « Mais il faut que je rétablisse ma mère, que non, c'était de l'amour et de la confiance, et même si elle était rock'n'roll, elle avait le droit de... » Enfin, elle m'a donné d'autres choses et qui m'ont donné aussi une force. Et donc, c'est parti de là. Et c'était ça la question.
Ouais. C'est exactement ça.
Et voilà. Donc c'est oui, c'est une réaction aussi un petit peu.
Vous savez qu'il y en a une qui n'arrête pas de raconter des histoires dans cette émission, vous la connaissez évidemment. Or, c'était là, c'est la culture. Et son actualité pleine d'illusions, souvent perdues d'ailleurs. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 2 décembre?
Vous avez encore envie de chanter ou pas? Au fond.
Francopholis des grandeurs, festival incontournable de nos étés dansants, les Franco de La Rochelle s'apprêtent à dévoiler les premiers noms de leur 37e édition qui se tiendra du 13 au 17 juillet prochain. Parmi les artistes qui feront pulser le Vieux-Port, on pourra compter sur l'Étoile, Angèle, l'Enflammé, Aurel San, le Pirate, Booba, mais aussi Julien Doré, Calogero, les Dutron père et fils, Clara Luciani, SCH, Gaëtan Roussel ou Juliette Armanet. Non mais là, vivement l'été.
J'aurais aimé, je pense, quand j'étais enfant, être une justicière, résoudre des enquêtes.
Pépite chic, hier, lors de l'inauguration du Salon Jeunesse de Montreuil, l'autrice Hélène Vignal a reçu la prestigieuse Pépite d'Or 2021 pour son ouvrage Queen Kong, paru chez Thierry Magnier, roman pour adolescents tout en audace, en singularité. Le livre met en scène une jeune héroïne à la découverte de son corps, de sa sexualité, de son féminisme aussi. Dans le même temps, quatre autres pépites ont été attribuées, notamment celle de la BD à Nowhere Girl de Magali Le Huch, édité chez Dargaud, c'est beau.
La faute, c'est de ne pas bien vivre. Tant de gens qui ont des vies heureuses, malgré tout, n'ont pas beaucoup vécu.
La femme de lettres canadienne, Marie-Claire Blais, s'est éteinte mardi. Elle avait 82 ans, figure majeure de la littérature francophone, autrice de dizaines de romans, d'essais, de pièces de théâtre et de recueils de poésie. Elle avait façonné pendant près de 60 ans une œuvre des marginalités, de la nuit, des âmes damnées. Lauréate de nombreuses récompenses, Marie-Claire Blais avait notamment reçu le prix de la langue française pour son premier roman La Belle Bête en 1961, ainsi que le Médiciste en 1966 pour une saison dans la vie d'Emmanuel. Enfin, un week-end avec Adèle, est-ce que ça vous dit? La pop star britannique qui vient de livrer 30, son nouvel album Événement, a décidé qu'elle ne ferait pas de tournée mondiale pour promouvoir son disque. En revanche, la chanteuse de Easy on Me, comme toute diva qui se respecte, vient d'annoncer une résidence de 3 mois à Las Vegas entre janvier et avril prochain. Adèle donnera 2 concerts par week-end durant 12 semaines au Colosseum du César Palace, qui a déjà vu passer Céline Dion, Mariah Carey, Elton John. Ouverture de la billetterie le 7 décembre prochain. Nous voilà bien. Et la comédienne Aratika, invitée de Boomerang ce matin pour Rose, en salle mercredi, un film qui interroge, à mon sens, sur certaines représentations du féminin à l'écran, on l'a compris. C'est d'autant plus intéressant qu'au début de votre carrière, dans La Vérité si je mens ou Bimboland notamment, vous avez incarné hors des rôles qui portaient en eux une certaine idée assez stéréotypée du féminin. Ne pas se laisser enfermer dans ce type de rôle, justement, quel combat est-ce que ça a été pour vous?
Ça a été un combat, oui. Ça a été un combat parce que, mais de la même façon que quand à l'adolescence, en fait, tout d'un coup, ça a été. J'ai l'impression dans mon souvenir, c'est presque du jour au lendemain où tout d'un coup le regard des autres a changé. Tout d'un coup, j'avais une poitrine et, oui, et des formes. Et ça a été le... Enfin, comme quoi en faire de ce corps? Comment le gérer?
Surtout s'il est imprégné sur la pellicule.
Oui, et après, voilà, ouais. Après, il s'est imprégné sur la pellicule, et donc je sais pas comment dire. Ça a été, au début, j'ai voulu correspondre à l'image qu'on attendait de moi. Au début, je me suis habillée sexy, j'ai été dans ce qu'on attendait de moi parce que j'avais l'impression qu'il fallait répondre à ça. Et puis après, ça a été l'inverse. Après, je me suis éloignée, je me suis habillée plus baggy, comme un parcours d'adolescent, en fait.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne les reniez pas du tout, ces rôles. Qu'est-ce que vous leur devez, ces rôles qui vous ont fait connaître, au grand public également?
Voilà, déjà, La Vérité si je mens m'a fait exister et connaître aux yeux du public et des producteurs. Et puis c'est des films fabuleux. Enfin, La Vérité si je mens, j'adore.
Et l'ironie.
Et Bimboland, c'est un film que j'aime beaucoup. Et surtout, j'ai adoré jouer ce personnage. Je me souviens très bien de tout le travail que j'avais fait pour le construire. Qu'avant chaque scène, je pensais au soleil. C'est ça qui me permettait de trouver mon personnage. Avant chaque scène, soleil. Et j'ai adoré jouer ce personnage, etc. J'étais très déçue qu'il soit reçu comme ça. Pour moi, c'était une satire du côté bimbo. Et en fait, ça a été pris au premier degré. Bon, voilà, mais...
Mais je veux vous dire, l'ironie, c'est que d'une certaine façon, rien, Horatica, ne vous prédestinait à jouer dans des films grand public. C'était pas du tout votre famille de cinéma. Votre mère faisait du cinéma expérimental. Vos premières expériences de tournage, c'était quand même avec Jeanne Moreau et Éric Rohmer. Comment ils ont...
Non, pas Rohmer, mais Jeanne Moreau. Et dans le film qu'elle a réalisé, L'Adolescente, j'ai un tout petit rôle. Enfin, je dis trois phrases.
Vous vous êtes surprise vous-même à aller vers ce type de film?
Aller vers la vérité?
Ouais.
Je me suis pas posé la question. C'est vrai que c'était pas forcément... Quand j'ai lu le scénario, j'ai pas vraiment compris le potentiel du film. Mais je me suis pas posé la question. Je voulais être comédienne, donc je me suis pas posé la question. Et puis j'avais pas de frontières et de snobisme comme ça que j'ai rencontré ensuite. Mais...
Et ces souvenirs avec Jeanne Moreau quand vous étiez toute petite, justement, quel souvenir est-ce que vous gardez de ces premières fois?
C'était horrible.
Pourquoi?
C'était horrible parce qu'il fallait que je parle à un bout de scotch près de la caméra et puis je faisais des regards caméra. J'avais 8 ans, c'était horrible.
Ça représentait quoi le cinéma pour vous?
Ça représentait des discussions de ma mère avec ses potes, avec Calfon, tout ça, tard le soir. C'était beaucoup des discussions, des rêves et des frustrations, je pense. C'est plus dans ce milieu-là que j'évoluais.
C'était un art dans lequel il était possible pour vous de vous projeter, quand même?
Non, moi, j'ai pas voulu faire ça au départ. Hein. Ça, c'est un truc qui m'a rattrapée. Mais moi, j'ai fait des études de droit. Je voulais être d'abord commissaire-priseur. Non, journaliste politique, ensuite commissaire-priseur. Et puis finalement, j'ai tout arrêté. Et j'ai été prise sur une photo pour entrer dans une agence. Et on m'a envoyée pour faire le casting de Ça me suffit de Virginie Thévenet. Et j'ai été prise. Mais c'était pas du tout... Ça m'a rattrapée. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait un petit peu petite par ma mère et son univers, mais ensuite, moi, ça m'intéressait pas. Je voulais faire quelque chose de sérieux et sortir de ce truc-là qui me semblait trop embrumé.
Pour autant, vous aviez une cinéphilie. Avec quel film est-ce qu'elle s'est construite, cette cinéphilie?
Alors, les films de Garel, les films du cinéma de minuit sur France 3, que je regardais tout le temps, les films en noir et blanc, les Cassavetes,
Vous direz que les films ont joué un rôle dans la construction de ce que vous étiez?
Bien sûr, bien sûr. Je pense par exemple à quand on parlait du corps tout à l'heure, un film de Russ Meyer, que Faster Pussycat Kill Kill, que j'ai vu quand j'avais 17 ans. Et c'est un film qui m'a complètement aidé à habiter mon corps et à trouver ma place. Ouais.
Let's examine closely then this dangerously evil creation, this new breed, encased and contained within the supple skin of woman. The softness is there, the unmistakable smell of female, the surface shiny and silken, the body yielding yet wanton. But a word of caution, handle with care and don't drop your guard. This rapacious new breed prowls both alone and in packs.
Faster Pussycat Kill Kill de l'américain Russ Meyer, film culte de 1965 que vous venez de citer, Horatica, admiré, régulièrement cité par des cinéastes comme Quentin Tarantino ou John Waters.
Il en a fait un remake.
Entre autres, quand vous pensez à ce film, quelles images vous reviennent tout de suite en tête?
En fait, c'est un film génial. C'est trois femmes qui sont dans le désert américain et qui rencontrent des mecs et qui les branchent et en même temps qui les agressent, qui se bagarrent avec eux, etc. C'est en noir et blanc, c'est sublime, les images sont sublimes. Et les filles ont des looks incroyables. Elles ont des pantalons moulants, des bottes de moto, des chemises très décolletées avec les seins à moitié à l'air, de l'eyeliner, les cheveux en arrière. Et moi, j'ai vu ce film. Je me souviens, c'était au cinéma à Beaubourg, devant Beaubourg. Et je suis sortie et je me suis dit, ok, j'ai trouvé. Et là, je me suis acheté un pantalon moulant, j'ai mis des bottes de moto, le eyeliner. Et enfin, c'est-à-dire qu'enfin, je marchais dans la rue et je me sentais, j'étais plus victime du regard, quoi. J'étais active dans mon corps et voilà.
C'est la question que j'allais vous poser. Ça veut dire quoi, habiter son corps, pour prendre cette expression?
C'est savoir quoi en faire, quoi. Savoir se placer, être centré dans son corps. Et je pense que j'étais à un âge, voilà, c'était un peu difficile. C'était trop. Oui, je pense que peut-être le regard était trop violent, ou je savais pas quoi en faire de ces formes.
Dans quelle mesure être comédienne, c'est peut-être d'abord ça, savoir habiter son corps, Horatica?
Alors, c'est pas tellement dans la culture française du cinéma, mais c'est vrai que je trouve que c'est important. Alors, autant moi, j'aime bien travailler sur le texte, d'abord à la table, un personnage, mais après, il faut le. Enfin, je trouve que c'est bien de l'habiter, quoi.
C'est-à-dire, quel outil est-ce que c'est le corps pour vous?
Bah, c'est la moitié du personnage, ou c'est presque tout, parce que le je t'aime, enfin c'est dans le sourire, dans la colère, dans la peur, mais c'est par le corps aussi qui ressort. Donc
ce qui est troublant, c'est qu'il change.
Tout le corps.
Le corps, il évolue, il se transforme sous l'effet de l'âge, des épreuves aussi. Est-ce qu'il vous arrive de penser que votre corps pourrait un jour devenir inhabitable? C'est une question qu'on se pose en tant que comédienne, en tant que femme aussi.
Oui, parce qu'en plus, il y a ce truc de justement, avec ce corps qui change, comment est-ce qu'on accepte la transformation et comment on l'accompagne là-dedans? Donc, ouais, c'est une vraie question. C'est une vraie question que je me pose aussi. Qu'est-ce qu'on se fait pas? Qu'est-ce qu'on accompagne, quoi? Comment on l'accompagne?
Quand est-ce que vous avez l'impression de l'habiter pleinement, votre corps, vous, Horatica? À quel moment?
Quand je me sens bien dedans, tout simplement. Ça va être après un cours de yoga ou quand j'ai bien mangé. Mais non, quand je me sens bien et puis par le regard des autres aussi.
Et quand vous dansez?
Et quand je danse, évidemment. Musique, mettez à fond.
À fond. Bah moi, j'ai envie qu'on danse ce matin avec tous les auditeurs de Boomerang sur Can't Take My Eyes Off of You par le Boys Town Gang en 1982, qui fait souffler un vent de liberté dans le film d'Aurélie Saada, Rose. Vous êtes sur France Inter avec Horatica. Vous écoutez Boomerang, and it's too good to be true.
Trapenard.
En fait, on est quelque part entre Dalida et Black Sabbath, c'est avec son rire boule à facettes, son regard métal, son cheveu nu magique, paillettes, lurex, tutti quanti, tout en chemise en jean. Ce matin, la comédienne Horatica, invitée de Boomerang pour Rose au cinéma mercredi prochain. L'histoire d'une femme qui vient de perdre son mari et dont vont jouer la fille, qui assiste à la transformation de sa mère sans vraiment la comprendre. Incarner un personnage, justement, on est en train de parler de ça passe par quoi? Pour vous disiez, ça commence par du texte.
Oui, je crois que ça me rassure. En fait, j'aime bien commencer par c'est sur le texte à la table, de façon très très posée, j'allais dire très scolaire. Je crois que ça me rassure, voilà. Et puis je mets des petits post-it sur l'ordre de la succession des scènes, l'ordre des scènes. Qu'est-ce que je vais tourner en premier, ma première semaine, ma deuxième semaine, etc. Voilà, c'est un truc de. J'ai l'impression à chaque film que je ne sais plus jouer, que je vais pas y arriver, etc. Donc j'ai besoin de poser les choses comme ça. Et puis après, c'est vraiment comprendre le sens de ce que je vais dire, ensuite Et ensuite, c'est je fais travailler un peu l'imaginaire et après
y a une
après
véritable
le corps aussi.
Méthode, voilà. J'ai l'impression chez vous. Et c'est une méthode que vous avez appris sur le tard, en fait.
Oui, sur le tard. Oui, c'est plus j'ai fait ce métier, plus je l'ai aimé et plus maintenant je suis passionnée. Mais au début, c'était pas en dilettante, mais c'était plus ah super, un nouveau métier. J'avais 18 ans, 19 ans, quoi. Donc c'était un peu ah ok, ouais.
Et puis un nouveau personnage aussi à chaque fois. Qu'est-ce que c'est pour vous, comédienne, un bon personnage, Horatica?
Un bon personnage, c'est un peu quand, ben, en tant que comédien, c'est quand il y a quelque chose à manger, quand il y a quelque chose à défendre, quand il y a un défi aussi, quand il a des choses à exprimer, de ses méandres personnels, quand c'est quelqu'un de pas forcément lisse, de pas forcément parfait, avec des vicissitudes, des vices, ouais, c'est génial.
Ça tient, hein, j'ai l'impression, à vous entendre, à une écriture. L'écriture qui a toujours occupé une place assez importante dans votre vie. Pendant un temps, vous avez même été journaliste, vous avez écrit donc ce livre, « Mon ciel et ma terre », sur la relation avec votre mère. Comment est-ce que l'écriture est rentrée dans votre vie? Très jeune?
Oui, en fait, j'étais fan du courrier des lecteurs de Libé quand j'étais petite, puisque c'est moi qui, tous les matins, allais acheter le journal pour ma mère. Et je le lisais, et ça a fait un peu mon éducation sur plein de choses. Il y avait même les premiers cas de sida, je me souviens, qui étaient décrits, des témoignages de gens et tout ça. Et donc, j'ai appris plein de trucs là-dedans. Et quand il a disparu, j'étais très triste et frustrée. Et j'ai été les voir, je voulais reprendre le courrier des lecteurs. Et tout ça, ils m'ont un peu regardé comme ça avec des grands yeux. J'arrivais avec ma mini-jupe, mes grosses baskets et tout ça. Et puis bon bah ça a pas marché, donc j'ai monté avec une fille charlottienne, on a monté un journal qui s'appelait Au hasard du courrier, qui était comme une sorte de fanzine qui reprenait des courriers du monde entier et qu'on distribuait dans les alliances françaises, les ambassades et tout ça, des cafés français à l'étranger, et on avait des courriers du monde entier comme ça, et j'adorais ce métier de mise en page et de choisir des textes, des dessins, des photos du monde entier. Donc il y avait toujours ce truc, mais c'était plus de la mise en valeur, c'était pas mes textes.
Oui, c'est ça. Et quelle relation est-ce que vous entretenez avec les mots, vous?
J'aime les mots et j'aime qu'on prenne soin des mots et de la langue française. Voilà. Non, j'ai un respect pour la France, la langue française. Non, c'est beau, c'est quelque chose de précieux.
Et ce sont des mots de Paul Éluard que vous avez choisi de nous lire ce matin.
Pourquoi j'ai choisi ça? Oui, non, alors pourquoi j'ai choisi ça?
L'amour, la mort, la vie.
L'amour, la mort, la vie. Je lirai que l'amour et la mort et l'amour.
C'est tout un programme.
C'est déjà pas mal. Non, mais je me disais un peu, c'est rare qu'on ait l'occasion de lire de la poésie à la radio en direct.
Je vous remercie de le noter.
Et ça fait du bien, comme aujourd'hui, toutes les images sont toutes en frontal, voilà. Alors, c'est pas éloge de l'ombre, mais c'est un peu de poésie, ça fait du bien. J'ai cru pouvoir briser la profondeur, l'immensité par mon chagrin. Tout nu, sans contact, sans écho, je me suis étendue dans ma prison aux portes vierges. Comme un mort raisonnable qui a su mourir, un mort non couronné, sinon de son néant, je me suis étendue sur les vagues absurdes. Du poison absorbé par amour de la cendre, la solitude m'a semblé plus vive que le sang. Je voulais désunir la vie. Je voulais partager la mort avec la mort, rendre mon cœur au vide et le vide à la vie, tout effacer, qu'il n'y ait rien, ni vitre, ni buée, ni rien devant, ni rien derrière, rien entier. J'avais éliminé le glaçon des mains jointes, j'avais éliminé l'hivernale ossature du vœu de vivre qui s'annule. Tu es venu. Le feu s'est alors ranimé, l'ombre a cédé. Le froid d'en bas s'est étoilé et la terre s'est recouverte de ta chair claire et je me suis sentie léger. Tu es venu. La solitude était vaincue, j'avais un guide sur la terre, je savais me diriger, je me savais démesurer. J'avançais. Je gagnais de l'espace et du temps. J'allais vers toi, j'allais sans fin vers la lumière. La vie avait un corps, l'espoir tendait sa voile, le sommeil ruisselait de rêves, et la nuit promettait à l'aurore des regards confiants. Les rayons de tes bras entr'ouvraient le brouillard, ta bouche était mouillée des premières rosées. Le repos ébloui remplaçait la fatigue, et j'adorais l'amour, comme à mes premiers jours.
Ça parle de la vie.
Ça parle d'amour, ça parle de de se plonger dans un désespoir d'amour et de revivre ensuite. Oui, ça parle de la vie, tout simplement. Et Éluard dit tout... Enfin, pour lui, c'est l'amour, c'est la vie, c'est juste... Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Et l'amour, c'est quoi pour les Japonais, c'est... Ce qui est important, c'est le lien entre les gens. Donc voilà, c'est ça, l'amour, c'est ça.
Ce que vous faites un peu par votre métier.
C'est ce que vous faites aussi, Augustin, tous les matins.
Merci infiniment, Auratica, d'être venu ce matin. Merci pour les mots de Paul Éluard, pour les mots tout court. Je rappelle que Rose d'Aurélie Saada avec la magistrale Françoise Fabian, mais aussi Grégory Montel et Pascal Elbé, entre autres, sort la semaine prochaine. C'est une très belle surprise. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça. Et 9h40 sur France Inter, Sonia De Villers, l'Instant M, ça va Sonia?
Elle est super bien cette chanson.
Elle est bien.
Ouais. Allez, salut Augustin, à demain.